Les journaux, Thérèse Bassoubi.
La HAM frappe d'embargo sur les médias plusieurs acteurs politiques. C'est le cas de Olivier Kamitatou, Justine Kasavubu, Joseph Olengankoy, Roger Lumbala et Gaston Dindo. Une mise en garde est aussi adressée à plusieurs organes de presse, parmi lesquels le quotidien L'Avenir. La communauté médicale du Congo lance un SOS sur la disparition du docteur Sosongyo Senevene. Le conseiller médical des affaires sociales à la vice-présidence de la République en charge de la commission économico-financière est porté disparu depuis bientôt 3 mois. À Bukavu, une cinquantaine de filets de pêche détruits ce matin par la force navale. Ces filets, considérés comme prohibés, empêchent la reproduction des espèces telles que les alevins. Okay. Mesdames et messieurs, bonsoir. La Haute Autorité des médias déplore la montée de la tension à Kinshasa et en province. Cette tension, d'après la HAM, est alimentée sur les médias audiovisuels par certains animateurs des plateformes AMP et 1 qui font preuve d'une irresponsabilité déconcertante. Le président de la HAM, Modeste Moutinga, l'a ainsi déclaré au cours de la conférence de presse tenue ce samedi au centre de presse de la CEI. Selon le numéro 1 de la HAM, les animateurs politiques des deux camps ont, à travers les médias audiovisuels, exploité à leur guise et pour leur compte les résultats de l'élection présidentielle. La HAM considère qu'ils sont passés outre leur acte d'engagement signé le 1er novembre 2006, actes dans lesquels tous se sont engagés à ne pas publier les résultats des scrutins à la place de la CEI, seul organe habilité à le faire. De ce fait, la HAM a décidé d'infliger un embargo à tous les acteurs politiques incriminés. En outre, elle adresse une mise en garde publique aux directeurs de programmes des médias suivants, RL TV, Hope TV, Global TV, Canal Numérique TV et aux directeurs de publication du journal L'Avenir. On écoute un extrait de l'allocution de Modeste Moutinga au micro des MCA.
Les cadres politiques de l'Alliance pour la majorité présidentielle ainsi que ceux de l'Union pour la nation sont tous montés au créneau avant-hier et hier sur les différentes chaînes de télévision et de stations de radio pour annoncer les résultats, pour annoncer les compilations qui sont les leurs parce que non publiées par la commission électorale indépendante. Par conséquent, le bureau de la Haute Autorité des médias, qui s'est réuni sans désemparer depuis ce matin, a décidé de frapper d'embargo. Monsieur Olivier Kamitatou, Monsieur Joseph Olenek, Monsieur Gaston Dindou, Monsieur Gabriel Mokia, Monsieur Roger Lumbala et Madame Joseph Kassandra.
Modeste Moutinga a par la même occasion rappelé aux journalistes des médias audiovisuels que le délai pour le dépôt des grilles de programme expire ce samedi à 18h avec un délai de grâce jusqu'à lundi à 12h. Les médias qui n'auront pas déposé leur grille de programme verront leur signal de leur chaîne coupé. Le peuple congolais invité à accepter pacifiquement le verdict des urnes et de ne pas se laisser manipuler par les politiciens. L'appel a été lancé au cours d'un point de presse animé ce samedi à Mbandaka par le président de la Société civile Équateur. La Société civile de l'Équateur, qui appelle aussi les deux candidats au présidentiel d'éviter le triomphalisme et ou le recours à la violence. Joseph Efeno, président de la Société civile de l'Équateur, est au micro de Régine Boku Manzango.
Demandons à la population congolaise d'attendre dans la sérénité l'annonce par la CEI des résultats provisoires des élections présidentielles deuxième tour et des provinciales, d'accepter les résultats dûment annoncés par la CEI et proclamés par les juridictions compétentes, de demeurer vigilantes et d'éviter toute manipulation politicienne d'où qu'elle vienne aux deux candidats, de garder confiance. À l'avenir, la victoire ne résout pas tous les problèmes et l'échec n'est pas la fin du monde. D'éviter le triomphalisme en cas de victoire et la violence en cas d'échec. De respecter et de vulgariser auprès de leurs bases respectives les engagements pris du 28 et 29 octobre pour l'acceptation des résultats et la garantie de sécurité mutuelle.
Rappelons que ce point de presse a été organisé à l'issue de la rencontre d'évaluation du scrutin du 29 octobre dernier, tenue à Kinshasa par les représentants de la société civile de toutes les provinces de la RDC. Le directeur du bureau de la MONUC, Ituri, a visité ce matin le centre local de compilation des résultats à Bounia. Selon lui, il voulait mieux connaître la façon dont les opérations de compilation des résultats du double scrutin du 29 octobre se déroulent. Charles Gomis qualifie de positif le travail abattu par les agents de ce centre par rapport au premier tour des élections. Il est au micro de André Kitenge.
On suit les élections du début à la fin. C'est dans le cadre de notre mandat, du travail que nous faisons. Mais ça va beaucoup mieux que le premier tour. Hein.
Avez-vous des remarques à faire par rapport à toutes les explications que vous donnez par le rapporteur?
Non, je voudrais féliciter tout le monde pour l'excellent travail dans des conditions difficiles parce que l'espace est exigu. Il n'y a pas assez de place, malheureusement. Mais tout le monde est sérieux, ça se passe bien. Je veux vraiment féliciter tout le monde et remercier toute cette équipe qui travaille avec seulement une heure d'arrêt pendant la journée. C'est très bien.
Et puis, la communauté médicale du Congo lance un SOS sur la disparition depuis bientôt 3 mois du docteur Soso Ngiosevene, conseiller médical des affaires sociales à la vice-présidence de la République en charge de la commission économico-financière. Ce cri d'alarme a été lancé ce samedi à l'hôpital général de Kinshasa au cours d'un point de presse que la CMC a animé devant les membres des bureaux cellulaires de l'Ordre des médecins et de la presse. Le docteur Soso portait disparu depuis le dimanche 20 août 2006 dans la commune de la Gombe à Kinshasa, était proche du MLC. On écoute le docteur Mankoy Badjoki, secrétaire exécutif provincial du Syndicat national des médecins. Il est au micro de Radio Capi.
Selon le récit de son épouse, le docteur Soso devait, dans le cadre de son travail, rejoindre le vice-président de la République en charge de la commission économique et financière, censé tenir un point de presse dans les installations de la chaîne de télévision CCTV, juste après la proclamation des résultats provisoires de l'élection présidentielle premier tour. Plus de 2 mois après la disparition du docteur Soso, aucune nouvelle, aucun indice ne nous est parvenu. Disons-nous, confrères, qu'aujourd'hui, c'est le docteur Soso. Demain, ce sera bien un autre. La communauté médicale de la ville de Kinshasa interpelle le gouvernement, les organisations non gouvernementales de défense des droits humains et les autorités tant civiles que militaires pour que non seulement ils apportent leurs assistances au docteur Soso conformément à la loi, mais fassent toute la lumière autour de ce dossier en vue de sauvegarder la paix sociale et la sécurité de nos médecins à tout moment.
Lancement officiel ce samedi à Matadi dans le Bas-Congo de la campagne de sensibilisation en faveur de la vaccination des enfants de 6 à 15 ans contre la rougeole qui va débuter le 6 décembre prochain. Toutes les couches de la population de cette province ont été associées à cette cérémonie. Kiroje Nyampala, reportage.
Tous les leaders socio-économiques, politiques et religieux du Bas-Congo doivent s'impliquer dans la réussite de cette sensibilisation afin de présenter à la population la nécessité de faire vacciner leurs enfants. Ces propos sont ceux de M. Lamy Tutunda, chef d'antenne de l'UNICEF Bas-Congo, à l'intention de personnes venues assister au lancement de cette campagne de sensibilisation. À la question de savoir les moyens concrets qui seront mis en place pour atteindre les communautés des coins les plus reculés de la province, Jean-Jacques Diabanza, chargé de communication à la division de la santé du Bas-Congo, explique.
Le premier canal que nous allons utiliser, c'est la territoriale d'abord. Le deuxième canal que nous utilisons, ce sont les confessions religieuses, les églises. En tout cas, et dans la salle tout à l'heure, on a vu les responsables, les représentants des confessions religieuses au niveau provincial prendre parole et lancer des mots de sensibilisation à l'endroit de leurs fidèles. Au-delà de ça, nous avons le radio, les télévisions, nous aurons les crieurs, les mobilisateurs dans les zones de santé. Nous pensons couvrir toute la province.
Signalons que selon l'inspectorat provincial de la santé du Bas-Congo, 29 168 cas de rougeole ont été notifiés en 2006 au cours de ces 10 derniers mois dans cette province et 394 enfants en sont morts. Le coût global de cette prochaine campagne de vaccination est évalué à plus de 2 350 000 dollars américains, dont 90% représentent la contribution de l'OMS, de l'UNICEF, de l'USAID et du Rotary International. De Matadi, Guy Roger Nyampala, Radio Capi.
Dans la province du Bandundu, les infirmiers de la ville de Kikwit observent une grève depuis jeudi dernier. Ils accusent les autorités sanitaires de ne pas prêter attention à leurs revendications. Ces infirmiers réclament une augmentation de leur salaire et ce, par rapport aux autres administratifs du même secteur sanitaire. Les détails avec Rebecca Ebalinguma.
Ils sont au nombre des 599 infirmiers qui observent cette grève. Ils veulent que leur salaire soit revu à la hausse par rapport au salaire des autres administratifs du secteur sanitaire qui, d'après les syndicats des infirmiers de Kikwit, ces administratifs n'ont pas le même volume du travail et la même responsabilité que les infirmiers devant les malades. Ce syndicat a écrit au maire de la ville, au procureur de la République près du parquet de la ville de Kikwit et au médecin inspecteur provincial depuis le mois de mai dernier pour trouver des solutions et augmenter leurs salaires suivant les accords signés en 2003 où ces autorités auraient accepté d'en faire part au ministère du tutelle, mais rien n'a évolué jusqu'en ces jours. Du côté des médecins inspecteurs provinciaux, lui, il reconnaît les faits, mais dit attendre le nouveau barème salarial qui pourra sortir l'année prochaine. Docteur Serge Masukunzundu nous a dit également, pour le moment, ils ont reçu de l'aide du commandant de la première région militaire des FRDC et qui leur a donné 25 infirmiers militaires et celui de la police leur a donné également une dizaine de policiers infirmiers pour aider tant soit peu les malades dans les différents centres médicaux de la ville. Les 25 infirmiers militaires sont affectés à l'hôpital général de référence de Kikwit et ceux de la police seront affectés dès lundi prochain aux autres centres para-étatiques de la ville. Depuis la ville de Kikwit dans la province du Bandundu, Rebecca Ebalenguma, Radio Kapi.
L'ultimatum lancé par le gouverneur de la ville de Kinshasa le 27 octobre dernier, en rapport avec la démolition des constructions anarchiques, a expiré hier. Parmi les constructions visées, celles se trouvant au sein du jardin botanique de Kinshasa. 48 heures après, rien n'a changé sur le terrain. S'exprimant au micro de Radio Okapi, l'administrateur délégué général de l'Institut du jardin zoologique et botanique affirme que ces constructions ne seront pas détruites. Monsieur Ilumbe Yampondé a été joint par Lisette Mbaki.
À ce niveau ici, en ce qui concerne la démolition, voilà ce que je connais, c'est qu'il y a une lettre adressée par le procureur général de la République après analyse du dossier, demandant au gouverneur de la ville de Kinshasa de s'en abstenir à cette démolition.
Donc vous voulez dire que ces constructions ne vont pas être démolies?
Moi, je ne peux pas dire démoli ou pas. L'Institut des jardins zoologiques et botaniques du Congo est une entreprise publique. Au regard de l'ordonnance le créant, et les jardins constituent notre patrimoine. Je ne peux pas vous dire qu'on doit démolir ou pas. Quand nous-mêmes, qui gérons ces espaces, qui sommes propriétaires, en quelque sorte, de ces espaces, dont nous détenons le certificat d'enregistrement, et nous disons nous voulons les mettre en valeur pour le bien-être de l'Institut, comment je peux vous dire qu'il faut détruire? Moi, je vous dirais qu'il ne faut pas.
Selon le service de presse du gouvernorat de la ville de Kinshasa, joint par Radio Okapi, on apprend que la mesure du numéro 1 de la ville de Kinshasa sera d'application dès la semaine prochaine. Tentative d'évasion cette nuit à la prison centrale de Beni, dans le grand nord de la province du Nord Kivu. Un des trois prisonniers qui ont tenté de s'évader a été tué par balle tirée par le militaire commis à la garde de la prison. Selon le directeur de la prison de Beni, depuis le début de cette année, environ 10 cas d'évasion ont été enregistrés. Cette situation s'explique par la vétusté des bâtiments abritant cette prison. Et puis au sud Kivu, la force navale a détruit ce matin une cinquantaine de filets de pêche considérés comme prohibés. Il s'agit des filets moustiquaires, c'est-à-dire d'un maillage très fin qui détruit les alevins et donc empêche la reproduction des poissons. Ces filets ont été saisis sur des pêcheurs qui pêchaient dans des endroits interdits du lac Kivu. Pour la division de l'environnement, il s'agit de protéger la reproduction des poissons dans ce lac qui est surexploité. On écoute Madeleine Mbengoué, chef de division de l'environnement Sud Kivu. Elle est au micro de Astrid Mujinga.
La pêche peut se faire partout dans les lacs, tout en respectant des zones de reproduction des alevins qui doivent être respectées. Dans ce cadre-là, on a remarqué que ici, les acteurs faisaient fi à cette loi. C'est ainsi qu'on s'est mis à mettre en place des stratégies telles que la récupération des filets, les lacs jugés prohibés. Nous venons procéder à l'incinération en public. Pour que demain, si quelqu'un d'autre osait faire ça, nous allons reprendre cette fois-là non seulement le filet, mais l'individu qui a occasionné la pêche illicite des alevins.
Et puis, à Mbujimayi, au Kasaï oriental, les sections coupe et couture fonctionnent sans programme national et matériel didactique approprié. C'est le constat fait par l'inspectrice de la section coupe et couture lors de la clôture d'un atelier ce vendredi au lycée Mwanjadi, consacré à la mise à niveau des enseignants de cette section. Madame Félicité Mujinga, inspectrice du secondaire en coupe et couture, fait l'état des lieux au micro de François Chimbenji.
Nous avons trouvé que presque toutes les écoles n'ont pas de programme national en coupe et en couture. Comment les professeurs sans programme pouvaient préparer leurs prévisions de matière, pouvaient préparer leurs leçons, pouvaient avoir de la matière, parce que toute la matière se trouve dans les programmes nationaux. Les professeurs donnent cours sans matériel didactique, elles donnent cours même à m'élever pour les traces. Ces promoteurs n'ont pas compris l'utilité de la section coupe et couture. Cette section coupe et couture demande beaucoup d'exigences. Il faut une préparation avec les matériels didactiques appropriés pour chaque leçon. Et nous allons nous adresser à la hiérarchie pour qu'elle exige aux promoteurs de libérer l'argent qui permettra aux enseignantes d'acheter les matériels didactiques pour leurs leçons.
C'est ici que prend fin ce journal. Vous pouvez le retrouver sur notre site internet www.radiocapi.net et bonne suite de programme sur Radio Capi. Okapi. Okapi.